bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, aujourd'hui nouveau podcast, donc un tout petit peu particulier par rapport à d'habitude, je le fais de temps en temps. Là on va avoir une interview de Kevin qui a participé à pas mal de compétitions et aussi à des préparations pour le bodybuilding. Donc salut Kevin.
Salut Théo.
Déjà comment vas-tu? Est-ce que tu souffres pas trop de la chaleur?
Eh bien, écoute, un petit peu. Là, on a sorti tous les ventilateurs dans la maison. Mais je pense que j'ai un ressenti un petit peu différent parce que je suis toujours en préparation. Et chaque fois que je remange un peu des glucides, je prends une bonne transpirée en ce moment.
Eh ouais, tu m'étonnes. C'est horrible, ça. Hein. T'as vu, quand tu décharges un peu, tu recommences à manger des hydrates, tu passes une nuit terrible avec la chaleur, quoi.
Ouais, exactement. Il suffit qu'il soit en plus un petit peu chaud. Et là, c'est tout de suite le sauna.
Et là, tu te prépares pour quoi?
Eh bien, écoute, là, il y a maintenant 2 semaines, j'ai passé les championnats du monde. Et du coup, là, c'est ce week-end maintenant, je me prépare pour Monsieur Univers IBFA qui se déroule à Sapri en Italie.
Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas? Je sais qu'il y en a qui te connaissent déjà, mais pour ceux qui te connaîtraient pas, vas-y, présente-toi un petit peu. Depuis quand tu pratiques? Pourquoi tu t'es tourné vers la compétition, etc. quoi?
Ouais, avec plaisir. Moi, c'est Kevin. Donc, pour parler un petit peu professionnellement déjà, je suis nutritionniste du sport et préparateur physique. À côté de ça, je suis aussi co-gérant d'une box de CrossFit parce que j'aime beaucoup la mentalité qui est véhiculée dans ce sport-là en termes d'entraide, etc. Donc, nous, on pratique le CrossFit avec mon associé, enfin, on le fait pratiquer du moins plutôt avec notre vision de préparateur physique et toujours dans l'objectif de l'évolution et d'adapter aux personnes. Donc, on le fait un peu de manière particulière, voilà. À côté de ça, moi, j'ai commencé la musculation il y a maintenant, quasiment 10 ans. Là, j'ai 26 ans, je viens de les avoir. Donc, oui, j'ai dû commencer vers 16 ans, mais je pense un petit peu comme tout le monde au début, en bricolant un petit peu en salle sans faire les choses de manière très sérieuse. Ouais. Puis ensuite, je me suis tourné vers la compétition relativement rapidement parce que j'ai tout de suite été passionné par ce milieu-là, qui est vraiment d'avoir un objectif précis. Et puis, ça m'a toujours fasciné. C'est physique, assez sec et développé. Et puis, de voir jusqu'où on pouvait aller mentalement dans la préparation. Donc, je dirais que ouais, je devais avoir 18, 19 ans quand j'ai fait mes premières compétitions. Bon, à très bas niveau. Hein.
Ouais.
Puis ensuite, là, ça fait 4 ans que je le fais bien plus sérieusement et que j'essaye de bien monter de niveau. Et là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai trouvé des préparateurs qui vraiment ont su, on va dire, mettre en lumière mon potentiel physique et puis ouais, que je suis monté au niveau international. Donc, ça s'est fait relativement vite, cette montée fulgurante, on va dire.
Et tu peux en parler c'est anonyme ou les préparateurs ou on peut leur faire un peu de pub là?
Non, pas du tout. Non, d'ailleurs, ça leur fera sûrement plaisir.
Alors, y a pas de souci. Enfin, moi, je les connais certainement pas, mais profites-en pour eux.
Alors, c'est pas des préparateurs du tout qui sont des coachs qui prennent un petit peu tout le monde. C'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans la préparation pour de la compétition. Ils ont vraiment très très peu d'athlètes avec du suivi très pointu en direct. Donc, ouais, c'est Manuela Montero et Raphaël Chevalier. C'est un couple. Alors, d'accord, à savoir qu'elle est passée professionnelle en catégorie woman physique l'année dernière.
Ah, attends, est-ce qu'ils n'avaient pas eu une interview avec Bodybuilding Rules il y a quelques années?
Oui, tout à fait. Ouais, ils sont passés dans plusieurs magazines. Raphaël, il a fait une couverture là, il n'y a pas longtemps. C'était dans le courant de l'année, il me semble. Donc, ouais, t'as dû les voir par là, peut-être.
Ouais.
Donc, des grands athlètes très pointus et vraiment de relativement haut niveau, que ce soit au niveau amateur, ils étaient au top du top. Et puis maintenant, Manuela est passée professionnelle. Donc, c'est vraiment des grands athlètes, vraiment très, très, très exigeants. Mais je pense que j'avais besoin de cette exigence-là, moi, pour pour aller au bout de ce que je pouvais donner et j'aime beaucoup leur manière de fonctionner.
D'accord. Bon, ben, c'est bien. Et du coup, comment ça se... Enfin, je veux dire, comment tu arrives à conserver cette énergie pour la compétition? Parce que même là, enfin, après, je te connais pas personnellement, donc je sais pas, mais on dirait que là, t'es un petit... Si tu me dis que t'es en prépa, ça, enfin, ça doit être un petit peu chaud, quoi, par rapport à la chaleur et tout. Comment t'arrives à rester motivé? Parce que depuis 19 ans, quand même, si t'as commencé à 19 ans, ça fait déjà 7 ans que t'es dans le milieu de la compète, en gros, quoi.
Ouais, exactement. Bah, écoute, après les compétitions, j'en ai pas fait chaque année. Enfin, au tout début, j'ai enchaîné vraiment année sur année parce que j'étais passionné par ce monde-là, par vraiment faire la compétition. Pour moi, c'est une passion. Je dirais même qu'elle va au-delà de simplement aller en salle et m'entraîner. Si j'avais pas la compétition derrière, je sais pas si ça me propulserait autant. C'est vraiment ça qui me motive. Bah écoute, la motivation, comme un petit peu tout le monde, on va la chercher un peu dans ses tripes. Écoute, moi, c'est comme je te disais, vraiment le résultat sur scène qui me motive. Je sais ce que je dois faire. Je fonctionne un petit peu de manière, un petit peu de manière militaire, dans le sens où quand on a fixé l'objectif, et ben bah maintenant on a lancé la préparation. Puis c'est comme ça. Les questions, bah fallait se les poser avant. Maintenant, je me suis engagé. J'ai dit que je le faisais, je le fais. Voilà, je fonctionne un petit peu comme ça. Ça m'évite de trop réfléchir, de trop me poser de questions, de me dire, oh, c'est dur, c'est pas dur. Oui, c'est
Ouais.
dur, mais je le savais, je me suis engagé, je le fais.
Et tu penses que le fait d'être encadré t'aide justement à faire cette aventure à plusieurs en fait et pas de enfin tu te sens jamais isolé, seul et tout ça, le fait d'avoir des préparateurs ou il y a quand même des moments où tu te sens un petit peu isolé où tu commences à te poser des questions, surtout j'imagine en fin de régime de prépa où tu te demandes un petit peu enfin je sais qu'il y en a qui se demandent pourquoi je fais ça, avoir des questions un petit peu tu vois démotivantes. Est-ce que ça te sert d'être avec du monde?
Bah, écoute, ça me sert beaucoup dans le sens où même si on est forcément isolé quand on est en préparation, même si on peut être le mieux entouré du monde, on est isolé, on souffre seul. Mais de savoir que derrière, on est compris quelque part et qu'il y a quand même un petit peu des comptes à rendre, parce qu'avant de rendre des comptes sur scène pour voir où on en est physiquement, quand on voit ses préparateurs, tu vois, moi je les vois toutes les semaines, par exemple.
Ouais.
Eh ben, chaque semaine, j'ai envie d'amener quelque chose et de montrer que j'ai avancé un petit peu à chaque fois. Et c'est ça qui est très motivant. Alors, c'est un petit peu la motivation positive de vouloir toujours avancer plus loin et à la fois la crainte de décevoir, quoi.
Oui, je comprends, ouais. Ben après, j'ai une question qui va rentrer un petit peu plus dans le vif. Est-ce que tu penses que tes entraînements aujourd'hui, ils sont vraiment différents d'une personne qui s'entraînerait sans objectif de compétition. Mais je veux pas dire une personne normale, lambda. Je te parle pas de la moyenne des gens en salle de sport, mais vraiment d'une personne passionnée qui va s'entraîner dur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tes entraînements sont plus ou moins les mêmes que cette personne-là, ou il y a quelque chose de différent pour accéder à la compétition?
Je pense que les entraînements ils sont différents, ben, que ce soit en termes de méthodologie pure d'entraînement, ben, ça c'est un petit peu propre à chacun, propre à chaque préparateur, les méthodes utilisées, mais je pense surtout qu'ils sont différents vraiment en termes d'intensité. Mes préparateurs, ils sont connus dans le milieu pour être, bah, je cite, quand je me suis un peu renseigné sur eux, à travers les personnes qui faisaient de la compétition et qui les connaissaient, ils m'ont dit, attention, c'est des psychopathes de l'entraînement. Et effectivement, la première séance jambes que j'ai faite avec eux, c'était l'épreuve du feu. Alors, cette rigueur, à force de m'entraîner avec eux souvent, 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 et de reproduire ça même quand je suis seul ou quand je m'entraîne avec ma compagne. Eh ben, je pense que là où il y a vraiment une différence qui s'est faite, c'est en termes d'intensité de ce que je suis capable de donner sur l'entraînement, que ce soit du premier au dernier exercice. C'est vraiment relativement intense. Et là où on peut le voir le plus, je pense, c'est sur les entraînements éprouvants, comme par exemple les jambes. Clairement, les gens qui disent ouais, moi je m'entraîne, je fais les jambes. Non, en réalité, tu t'entraînes pas. Moi aussi, je croyais que je m'entraînais avant. Mais maintenant, je vois ce que c'est s'entraîner vraiment pour accéder à de la compétition. Mais encore une fois, là, c'est pour accéder à de la compétition de haut niveau. Mais bon, derrière, ça suggère une récupération qui est
Ouais,
relativement intense
exceptionnel, ouais.
aussi.
Ben,
Ouais,
tu
tout à
peux nous
fait.
donner un exemple de ta séance cuisse?
Oui, tout à fait.
Pour que les gens se rendent un petit. Je sais que c'est très difficile de mettre des mots sur l'intensité parce que
Ouais, tout à
tu
fait.
vas donner des chiffres, mais après, le ressenti, le vécu et le et si tu poses ou tu continues à pousser, ça c'est aussi super important. Mais que les gens aient déjà une idée de la séance cuisse, à quoi ça peut ressembler, quoi.
Ben, typiquement, mes préparateurs, ils sont assez adeptes des séries longues. Ben, il y a du lourd, hein, bien évidemment, mais des séries longues, c'est ce qu'on voit un petit peu le moins en salle de ce que je peux voir autour de moi. Ce qui fait que mes entraînements, ils changent par rapport aux autres, c'est plutôt ça, je dirais.
Ouais.
Ben, typiquement, c'est possible d'arriver, puis je sais pas, on se met sur un leg extension et puis on fait une série de 80. Tout de suite derrière, on prend 30 secondes pour changer de machine et on va se faire une série de 80 ou 100 à la presse. Et là, c'est pas, on fait 20 répétitions, on pose parce que ça brûle. Enfin là, on y va avec ce qui nous reste dans le ventre.
D'accord.
Disons que j'ai été vraiment surpris les premières fois. Bon, la première fois que j'ai fait les jambes avec eux, ils m'ont mis un poids au leg extension, par exemple, où j'aurais été capable, je sais pas, de faire allez, 15, 20 répétitions à bloc, et il a fallu en faire 100. Alors bien évidemment, on y allait en dégressif, il m'aidait, il m'aidait, il m'aidait, mais il y a un moment donné, il a fallu en faire 100, quoi, et on posait pas. Donc c'est relativement difficile entre dire je vais faire la série sans poser, et réellement quand ça brûle, ça brûle, ça brûle, et on est à 40, 50, et qu'on n'a pas encore fait la moitié. Dans la tête, c'est assez compliqué au départ.
Ouais, ça je comprends. Ouais. Bah après moi je l'ai pas fait pour les cuisses particulièrement, quoi qu'au leg extension j'ai déjà tenté comme ça des grosses répétitions, enfin série de beaucoup de répétitions, mais je peux le voir par exemple sur les abdominaux où moi c'est même plus en répétition, c'est en termes de minutes, tu vois, je lance le chrono pour 15 minutes et je m'arrête pas, quoi.
Ouais, tout à fait, je vois bien.
Et ça c'est un petit peu la même chose, tu vois, au bout déjà de 3 minutes tu dis c'est pas possible, je vais pas tenir, quoi. Et après, je pense que le mental, au bout d'un moment, il décroche un petit peu, comme les kinés pourraient dire, tu sais, comment ils s'appellent ça, là, les trigger points, là, au bout d'un moment, ton système nerveux, il décroche au niveau de la douleur. Ben là, c'est un peu la même chose. Au bout d'un moment, tu sens que tu décroches, t'arrives même plus à avoir mal, quoi.
Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Au bout d'un moment, de toute façon, le cerveau se déconnecte. Bah, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure si tu veux, parce que j'ai des parents qui sont des athlètes de haut niveau en termes d'ultra-endurance, et c'est un petit peu quelque chose qu'ils m'ont appris quand ils faisaient des Ironman, c'est qu'à un moment donné, si tu réfléchis, tu finis pas. Il faut que le cerveau, il se dissocie du corps, et puis on avance, on avance, on avance. Et c'est tout à fait ça, ouais.
Mais c'est sûr que si tu commences à imaginer que tu peux abandonner, en 90% du temps, tu vas
Ah ouais, là c'est
abandonner.
foutu. Là, si tu commences à entrouvrir la porte, c'est fini.
Si la graine elle est plantée de l'abandon, c'est foutu, quoi. C'est comme
Ouais,
les
tout à
personnes
fait.
qui commencent à se dire, oh, je verrai ce soir si je vais m'entraîner ou pas. Le ou pas, en général, il va gagner.
Ouais, tout
Donc
à fait.
c'est vrai que ouais. Mais après, donc ouais, tu disais donc parce que les gens là, ils vont dire, il a pas fini sa séance cuisse là, qui continue. Alors. Tu me
Ouais.
disais que tu commences leg extension, donc une série géante, un peu en dégressif, puis après t'enchaînes directement avec un peu de pause sur de la presse. Donc ça, c'est vécu comment? C'est quoi? C'est pour pré-fatiguer? C'est pour vraiment, c'est le vif, c'est le cœur de la séance ou c'est une technique pour démarrer?
Alors, tout dépend dans quel cycle un petit peu on se situe, mais alors on a pour habitude de faire quand même. Alors, quoi qu'il arrive, on fait quasiment tout le temps une série de chauffes en tout début de séance où on y va sur entre 30 et 50 reps relativement light où on n'est pas complètement cramé, quoi, pour pas trop se pré-fatiguer. Mais
Ouais.
ensuite, je veux juste souligner quelque chose, c'est que quand je parle de série de 100, par exemple, parce que 100, c'est un chiffre simple à se mettre en tête. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose à reproduire pour tout le monde parce que ça nécessite quand même un certain niveau de force pour pouvoir mettre un poids suffisamment conséquent pour qu'en faisant 100 répétitions, il y ait quand même un impact mécanique. Je veux dire par là que si on est relativement débutant ou pas très fort, ça sert, je pense, pas à grand-chose de se mettre sur une presse. Si c'est pour mettre 3-4 plaques seulement et faire une série de 100 et de se brûler comme ça au début de l'entraînement. Disons que ça a été de plus en plus productif pour moi de faire ces entraînements-là au fur et à mesure que je suis devenu plus fort justement sur ce type de série. ça donne de plus en plus de résultats parce que j'arrive à avoir des charges de plus en plus conséquentes sur ces séries longues. Alors, je pense qu'au début, peut-être quand on charge, on n'arrive pas à charger assez, faire du long, c'est peut-être pas très intéressant, quoi.
Ouais, et t'as gagné d'autres, je veux dire, parce que là, au niveau de l'endurance et tout, est-ce que tu sens que t'as gagné quelque chose dans tes activités, on va dire, extérieures à la muscu? Est-ce que t'as ressenti, des bienfaits au niveau énergétique ou pas de pratiquer ces séries longues comme ça?
Ouais, alors après, le problème, c'est que moi, j'ai un gros point fort cuisse et
Ouais, ça se voit, ouais. Bah, je vois ta vignette en petit, on voit, c'est vrai que, bah, disons que sur la photo, on voit que c'est un point fort, mais t'as pas de déséquilibre avec le haut. Mais on voit que c'est un point fort, on voit que tes cuisses, elles sont là, quoi. Après, t'as bien bossé le haut et je vois que t'as surtout bien bossé les épaules pour essayer d'évaser au maximum ton buste pour que ça fasse bien un bon physique en X, quoi.
Ouais, exactement. Bah, j'ai une ligne avantageuse à la base là-dessus. Mais alors moi, quand j'ai démarré la musculation, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait au début, je faisais 56 kilos. Donc je ne savais pas ce qui allait être un point fort, un point faible ou autre, puisque j'étais un point faible global. Et ben super, les cuisses ont été finalement un point fort et ont pris vraiment un joli galbe qui part du haut de la cuisse. Donc effectivement, il faut vraiment que j'évase beaucoup le haut. Pour qu'il y ait une certaine symétrie, ouais, tout à
Tu faisais
fait.
quoi comme sport avant la muscu?
Alors, je faisais aucun sport.
D'accord,
Alors, j'ai
ok.
pratiqué des petites activités comme ça, un petit peu le foot quand on est jeune, le taekwondo, mais
Mais
rien de
rien
bien
de, ouais,
sérieux. Non, non, non,
rien de
du tout.
régulier, ok. Non, mais c'était pour voir s'il y avait un lien sur ton point fort cuisse et tes antécédents, mais visiblement
Non.
non. Mais
Mais
de toute
je pense
façon,
que juste.
on dit souvent qu'on est soit du haut, soit du bas. Hein.
Ouais, tout à fait. Mais moi, je pense que globalement, ça, c'est un peu. C'est pas narcissique de dire ça, mais j'ai pas de points faibles parce que j'ai pas vraiment de gros points forts non plus. Et je pense que le fait de pas avoir pratiqué de sport, en fait, j'ai mis l'accent sur rien dans ma jeunesse. Et comme en débutant la musculation, j'ai tout de suite commencé en entraînant tous les muscles, bah, j'ai jamais vraiment créé de déséquilibre et j'ai jamais rien eu à rattraper. Et je
Ouais.
suis le genre de personne, tu me fais faire n'importe quel exercice, je ressens le muscle ciblé. Je suis jamais tombé sur un exercice où je sentais pas le muscle.
D'accord. Bon, ben c'est bien. Ça veut dire que
Ouais,
tu as une bonne connexion neuromusculaire, quoi.
ça c'est tout de suite bien fait, ça c'est chouette.
Ben après, tu t'es attaqué jeune, parce que si tu as fait la première compète à 19, ça veut dire que tu as commencé, tu n'étais même pas adulte, quoi.
Exactement, ouais.
Ça y joue quand même, parce que moi, je le vois, j'ai commencé à. Bon, moi j'ai une période d'arrêt au tout début, mais je veux dire les premières barres que j'ai poussées, j'avais 15-16 ans, et je sens quand même que ça a eu un impact, même si j'ai arrêté 2 ans quand j'ai déménagé et tout, et que j'ai repris qu'après à 21 ans, je sens que cet entraînement adolescent a eu quand même un petit impact au niveau. Il y a des choses que j'ai jamais perdues en fait. Si tu veux, même
Ouais, t'as
quand j'ai
commencé
arrêté,
à créer une base, ouais, tout à fait.
ouais. Et même si tu veux, quand j'ai repris à 21 ans et après j'ai jamais arrêté, si tu veux, tout était là, quoi. Je veux dire, les gestes étaient là, je savais contracter les muscles. Et ça, je pense quand même que quand tu, enfin, plus tu t'y mets jeune, plus en fait, ton système nerveux, il se construit là-dessus, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord, ouais.
Et donc, alors, donc ouais, donc ta séance cuisse, c'est plus ou moins. Et du long et du lourd, et elle dure combien de temps? Une séance, ça dure combien de temps à peu près?
C'est assez variable, mais je dirais que ça tourne aux alentours d'une heure et demie. Donc oui, on enchaîne des séries assez longues. Après, on peut passer sur du plus lourd. On aime beaucoup des tempos où, par exemple, on va maintenir 1 ou 2 secondes d'isométrie, que ce soit en bas du mouvement ou en haut. On fait un petit peu d'excentrique. Enfin, il y a pas mal de tempos aussi. C'est des choses qui me réussissent relativement bien, écoute. Mais encore une fois, ça me réussit bien depuis que j'arrive à développer des charges assez lourdes. En fait, si
Et
tu
comment
veux,
tu as
les
réussi à
charges.
obtenir ces charges lourdes? Donc, avant de passer à ce genre de protocole, tu as suivi un protocole plutôt classique qui t'a permis d'acquérir de la force, c'est-à-dire quoi, en série de 8-12, plutôt, enfin, les programmes standards, quoi, ou c'est ce programme-là qui t'a permis de prendre de la force?
Bah, écoute, j'ai jamais été spécialement fort, moi.
D'accord.
Je veux dire ça par rapport au physique que j'ai, on peut imaginer que je peux développer des charges plus conséquentes, mais j'ai jamais été quelqu'un de spécialement fort.
Ouais, enfin,
Alors
faut partir de
vraiment,
ta base de 56 kilos. Hein.
Oui, voilà, tout à fait.
Je pense que
Mais...
si on prend l'individu de 56 kilos à la base et les charges que tu pousses à la presse, il doit y avoir quand même un écart assez important, quoi.
Oui, tout à fait, mais ouais, exactement. Mais quand je vois des personnes avec qui je peux m'entraîner qui peuvent avoir un niveau physique bien moindre et qui arrivent à développer des charges beaucoup plus conséquentes, ils s'imaginent toujours que je suis plus fort que ça. Mais non, pas vraiment. Mais écoute, pour développer la force, bah, bien sûr, c'est venu avec le temps, mais c'est assez étrange, mais je dirais que bah, depuis que je suis sur ces protocoles d'entraînement-là, j'ai vraiment beaucoup progressé là-dessus. Finalement, je suis devenu plus fort en mêlant toutes les techniques d'intensification au travail lourd. Je suis devenu plus fort comme ça que quand je faisais quasiment que du lourd avant. Ouais.
Et finalement, avec toutes ces techniques que tu utilises, avec tes préparations, c'est quoi l'objectif de la séance? Est-ce que tu recherches quelque chose, une certaine sensation? Parce que tu me dis que tu faisais un tempo particulier, parfois de l'isométrie, des séries très longues. Est-ce qu'il y a quoi, une recherche de brûlure, une recherche d'échec? Est-ce qu'il y a un objectif sur chaque série, je veux dire, au-delà du nombre de répétitions?
Ouais, alors en général, bah, toute façon, moi j'aime m'entraîner comme ça et j'adapte ma récupération dans l'entraînement et autour de l'entraînement autour de ça. Donc je vais quasiment toujours plus ou moins jusqu'à l'échec sur chaque série. Et c'est quelque chose que je recherche. Après, effectivement, quand on est sur des séries longues ou des tempos, ben là il y a une recherche de brûlure. Ça n'a rien à voir de faire 8 répétitions à la presse en lourd ou 100 répétitions, quoi. Ou bien pour donner un exemple, des choses qui peuvent arriver, c'est par exemple, je sais pas, la presse toujours, et ben on pourrait faire, je sais pas, 10 répétitions où on retient l'excentrique sur 4 ou 5 secondes, puis ensuite on finit sur 15 reps normales où on pompe, quoi. Donc là, effectivement, ça brûle bien.
Oui. Bah, après, au niveau, on va basculer un peu sur le niveau récupération, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, mais attends, moi, si je fais une séance de cuisse comme ça, je peux plus aller bosser le lendemain, quoi.
Ouais, je le conçois, ouais.
Donc, toi, est-ce que déjà tu penses, bon, moi, j'ai ma réponse, mais est-ce que tu penses que, enfin, n'importe qui, si on a le niveau, est-ce que on peut le faire quand on a un métier manuel, un métier sédentaire, etc. Moi, je pense que oui, personnellement, que ça peut être lié à la récupération. Mais toi, j'aimerais savoir comment tu t'organises, en fait, pour que pas trop souffrir de ce genre de séance finalement dans ton quotidien après.
Ben, écoute, je pense tout d'abord que tout ça, c'est une question d'habitude. Forcément, je subis moins les retours de ces séances-là aujourd'hui que je les subissais au début quand j'ai commencé. Au tout début, pendant 3, 4 jours, oh là là, mais tu mets plus le pied par terre, t'es complètement éteint, que ce soit physiquement ou même nerveusement. Et puis maintenant, ben, c'est devenu un petit peu mon quotidien. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut introduire peut-être plus progressivement, pour tout le monde. Mais après, au-delà de ça, moi, je suis vraiment assez millimétré sur mon alimentation. J'accorde une importance vraiment très, très, très importante à tout ce qui est sommeil, le fait de bien dormir. Ça, c'est très important pour moi. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est massage. J'utilise souvent de la récupération avec mon complexe. Enfin, je fais beaucoup
D'accord.
de choses dans le sens. Enfin, je dirais que je mets autant d'énergie dans ma récupération, que ce soit à travers l'alimentation, le sommeil, tout ça, que de l'énergie que je mets à l'entraînement.
D'accord. Ben, je pense que ça, c'est lié aussi peut-être à ta formation professionnelle, quoi.
Ouais, tout à fait.
Tu as réussi à comprendre certains mécanismes. Et puis, je pense qu'aussi, on se rend rapidement compte qu'on peut avoir des effets directs sur la récupération à partir du moment où vraiment on a souffert de séance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer à penser récupération, mais qui n'ont pas encore ressenti le besoin. C'est-à-dire que quand tu... Enfin, je sais pas si toi tu l'as ressenti pareil, mais il y a un moment donné où tu te dis, non, mais des séances comme ça, je peux pas subir ces lendemains difficiles à chaque fois. Il faut que je trouve une solution, quoi. Et je pense que c'est aussi par l'intensité des séances que tu es amené à chercher des techniques de récupération, quoi.
Ouais, tout à fait. Puis après, il faut savoir s'écouter, mais pas trop. Je dirais qu'il faut faire la différence entre, oh là là, je suis cuit, j'ai besoin de plus de récup, et
Et
la
j'ai la
personne qui aurait la flemme.
flemme.
Ouais, exactement, tout à fait.
Ah, ça, c'est
Après,
difficile, hein. Mais ça, pour
ouais,
ça, moi, je
vraiment.
donne une technique, c'est d'essayer de se détacher de soi et d'essayer d'être son propre coach.
Ouais, tout à fait.
Et de voir si on était, si en face de nous, enfin, si en se détachant, on se voit comme son élève et qu'on analyse un peu la semaine qui s'est passée, l'alimentation, la récupération, le sommeil, et se dire si aujourd'hui, c'est un jour où on peut donner le maximum, un jour où on va faire plutôt une récupération ou un jour où on va faire du light, quoi. Mais ça, c'est assez difficile parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en fait, elles sont vraiment concentrées sur elles, mais sans avoir ce côté, cette vision, on va dire, périphérique, panoramique, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et si elles ont été motivées par l'entraînement, une vidéo qu'elles ont vue ou quoi, elles peuvent être amenées à faire des séances très intenses sur une fatigue, et ça ne va pas être bon. Ou alors, elles peuvent se dire, oh là là, je suis épuisé, parce qu'elles ont le ressenti d'épuisement maintenant, parce que peut-être elles ont passé 4-5 heures d'affilée assis ou dans les bouchons ou quoi, donc du coup leur corps il est complètement amorphe, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'énergie.
Oui, tout à fait.
Et c'est assez difficile, mais enfin moi le conseil que je donne, c'est de réussir le maximum à se détacher, d'analyser en fait à J-3, savoir ce qu'on a fait, est-ce qu'on est dans les bonnes configurations, et savoir aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui se basent sur les jours précédents, mais aussi sur l'avenir. Parce que faire une séance comme tu as décrit là, de cuisses vraiment intense, et si le lendemain, vous avez la journée la plus épuisante, je sais pas, au niveau professionnel, que ça soit vous avez une grosse présentation écrite à faire ou quoi, bah c'est peut-être pas le jour de faire la séance cuisse pour la première fois aussi intense, quoi. D'essayer d'avoir toujours cette vision, parce que malheureusement, on n'est pas tous athlètes de haut niveau, juste à dormir et manger et pousser. Et même toi qui es compétiteur, tu as un job. Donc, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte, quoi. Mais après, j'ai une autre question, parce que le mail que tu m'as envoyé à la base, tu disais que sur les derniers moments de ta prépa, ben, finalement, tu avais besoin de t'occuper l'esprit un petit peu avec ben voilà des choses qui te permettaient de tenir. Comment tu déjà pourquoi tu t'as été amené à ça? Quelle était la difficulté en fait de pourquoi tenir en fait c'est quoi que tu devais tenir?
Ouais, alors bah, la chose à mettre en avant dans la préparation, je pense que la plus difficile, c'est déjà d'arriver à tenir son régime, tout simplement. C'est relativement difficile à partir d'un certain stade. Je pense que tout le monde est capable, avec un petit peu de volonté, tout le monde est capable de tenir 2, 3, 4 semaines de régime. Mais bon, quand on arrive à 3, 4 mois, je pense que c'est pas le même niveau de difficulté. Il faut bien mettre en avant plusieurs choses. C'est que combien de temps on a passé au régime et où est-ce qu'on en est dans son régime. Je veux dire qu'à un moment donné, là tu vois, je suis dans la dernière semaine et je suis assez fatigué et
Ça
tout
s'entend.
le monde
En
et
fait,
tout
ça
le monde.
s'entend que t'as pas ton énergie, tu la
Je suis
conserves
pas
pour
au
autre chose.
bloc. Ouais. Et tout le monde me dit ah bah c'est bon, il reste plus qu'une semaine, il reste plus qu'une semaine, c'est bon, t'es au bout. Oui, mais plus qu'une semaine, quand ça fait 4 mois de régime et que ça fait déjà 4 semaines que je suis aux alentours de 4% de masse grasse,
T'as pas la
c'est
même perception du temps, hein.
voilà, c'est pas la même semaine que celle où on débute son régime tout tranquillement et qu'on est encore à 13%, quoi. Donc une semaine, c'est pas 7 jours, mais c'est 7 ans dans ma tête, tu vois.
Ouais.
Mais non, ce qui est difficile, c'est tenir son régime déjà, et surtout mentalement. Moi, quand je dis toujours aux gens, j'espère que je vais tenir, que je vais pas craquer, dans ma tête, je fais tout pour que ça aille dans ce sens-là. Mais quand je dis craquer, c'est pas craquer sur ma diète dans le sens où, oh allez, je vais en sortir et je vais manger des trucs que je devrais pas manger. Je dirais plutôt que c'est craquer psychologiquement, d'arriver à un point de rupture où mon cerveau, il me dit stop, là maintenant, c'est fini les conneries, t'arrêtes, je souffre trop, il faut faire quelque chose. Et c'est ça, il faut éviter d'arriver à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'on souffre psychologiquement à cause de la pression de la compétition, à cause du travail qui est autour, à cause de tout ce que ça peut faire subir à la famille. Il y a la pression alimentaire parce que sans s'en rendre compte, eh ben, on pense qu'à ça toute la journée quand on est mis à l'épreuve. Et puis, il suffit qu'on regarde la télé, il n'y a que des pubs qui parlent de bouffe, etc. Et
Ah, puis c'est amplifié, ouais.
dans mon travail, ça peut paraître bête, mais comme je suis nutritionniste du sport, eh ben, je fais que ça, de parler d'alimentation toute la journée, de monter des programmes alimentaires. Toutes les consultations que je reçois, c'est des gens qui viennent me parler de leur bouffe, de, oh, j'ai fait un écart, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Donc, c'est pas évident de ce côté-là.
T'as envie de leur dire, mais sois content, t'as encore de la voix,
Ouais,
des durées.
exactement. Moi, quand je monte la diète de quelqu'un, et que je note les quantités, je me dis, oulala, si je pouvais manger ça, moi, je serais le roi du monde. Et
Mais
puis finalement,
d'ailleurs, je te coupe rapidement,
dis-moi.
parce que, alors, je sais pas, peut-être que tu as vu les assiettes que je mets quand moi j'essaye de couper un petit peu les hydrates et tout ça. Il y en a
Ouais.
beaucoup qui me disent, mais tu manges que ça? Et en fait, je leur réponds, bah ouais. Je mange que ça. Enfin, je veux dire, moi, si je mange plus, ça fonctionne pas. Et y a cette croyance, en fait, dans le monde de la muscu qu'il faut manger énormément et même en sèche, en fait, que, bah, certes, tu vas peut-être plus avoir beaucoup de glucides, mais tu vas manger des tonnes et des tonnes de protéines. Mais enfin, personnellement, ça fonctionne pas, en fait. Si je mange des tonnes et des tonnes de viande et de poisson et tout, en plus, de quelques graisses et de légumes et tout ça, mais je veux dire, il y a un moment donné où la taille, le volume de mes assiettes baisse, et c'est sûr que je mange assez peu. Et j'aimerais voir si toi, t'as le même retour d'expérience ou pas du tout.
Bah écoute, je pense que c'est très subjectif le tu manges que ça parce que
Ah, il n'y a pas le nombre de repas déjà?
ouais, c'est ça, il n'y a pas le nombre de repas, il n'y a pas la situation dans laquelle on est, les besoins de chaque personne sont vraiment différents. Si moi par exemple quand je suis en fond de prise de masse comme on pourrait dire vulgairement, bah forcément je dois manger beaucoup plus, je suis quelqu'un qui brûle plus, donc je regarderai tes assiettes et je me dirais mince Théo, tu manges que ça. Et là, si je prends une de mes assiettes, je vais dire tu manges tout ça. Donc c'est vraiment différent selon les périodes. Mais effectivement, cette croyance selon laquelle il faut manger, 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 bourrer, bourrer au maximum, je suis pas du tout partisan de ces théories et mes préparateurs non plus. Manger pour manger, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On mange ce qu'on a besoin de manger pour aller vers son objectif, c'est tout.
Est-ce qu'on a le droit de manger aussi si on
Oui,
veut se
tout à
séparer de gras?
fait, idéalement.
Ouais, bah, après, au niveau de l'alimentation, vu qu'on est sur cette dimension-là, toi, est-ce que tu t'as remarqué que tu avais peut-être plus d'énergie, moins d'énergie par rapport à l'alimentation, on va dire, que tu as aujourd'hui et celle que tu avais avant? Alors, celle qui est peut-être plus restrictive aujourd'hui en termes de sélection d'aliments? Mais est-ce que c'est mieux ce que tu as là? Est-ce que tu as réussi à trouver le bon équilibre entre physique au top, entre guillemets, et énergie au top? Voilà, c'est ça ma question.
Alors, bah, dans la période dans laquelle je suis là actuellement, à 4% de masse grasse, non au niveau de l'énergie,
Ah oui,
mais
là non.
j'ai bien compris ta question. Oui, tout à fait. Alors, ouais, j'ai trouvé un bon équilibre, mais ça reste assez compliqué dans le sens où, quand moi, je veux pouvoir prendre un petit peu de poids, vu que je suis quelqu'un qui n'a pas un très gros appétit, je me sens vite rempli et je dois vite forcer un peu. Alors, et pourtant, c'est pas des quantités industrielles hein, que je dois manger, mais pourtant, je dois toujours forcer un peu. Donc, je me traîne toujours un peu une sensation, tu sais, d'écœurement, d'être en digestion,
Ouais.
etc.
En plus, ça
Donc,
te claque un peu.
ouais, voilà, tout à fait. Donc, heureusement, je dirais que globalement, je mange quasiment, même quand je suis dans ma phase de développement musculaire, je mange quasiment que des choses relativement clean, parce que si en plus par-dessus ça je rajoutais des saloperies, voilà, je serais tout explosé tout le temps.
Ouais. Bah après, ce serait peut-être plus facile en termes de total calorique, mais bon, ça veut pas dire que t'en feras quelque chose, quoi.
Ah oui, exactement. Ah bah c'est beaucoup plus facile de se resservir une part de pizza que de se resservir un blanc de poulet, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il y a les mêmes résultats physiques à la fin? Je suis pas convaincu.
Bah, le cerveau, en plus, je lisais en fait des résultats de chercheurs là qui disaient. Quand on fait des festins, des choses comme ça, on mange beaucoup. C'est pas parce qu'on est en famille ou, enfin, il y a ce côté-là aussi, mais je veux dire, c'est pas essentiellement ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de choix alimentaires devant les yeux et que le cerveau, par exemple, si on a brocoli, blanc de poulet, je prends le truc le plus raide, hein, on va dire, et du riz blanc, tu vois, sans sel, sans huile ni rien. on aura moins de chances de se resservir que si on met ces trois mêmes aliments, mais qu'à côté, on va après t'amener de la pizza, on va t'amener après un petit peu, je sais pas moi, de lasagne, de choses comme ça. Et même pas forcément des aliments crades, hein. J'aurais pu prendre des aliments clean. Par exemple, on pourrait amener après du bœuf, on pourrait amener après du saumon. On aura plus de chances de prendre ces autres choses parce que le cerveau va chercher la nouveauté, en fait. C'est pour ça que le pire truc, tu sais, c'est les buffets à volonté. T'as envie de tout manger. Même si t'as plus faim, ou les trucs chinois et tout ça.
Ouais, il faut prendre un petit peu de tout pour
Voilà.
tout à fait.
Et c'est sûr que quand on mange 100% clean, c'est très difficile en prise de masse, surtout pour les personnes qui ont un métabolisme super rapide, parce que d'obtenir son total calorique avec des brocolis, du riz et du blanc de poulet, ben ça demande de manger quand même des belles quantités. Et ben, des belles quantités de brocolis et tout ça, ben, les gens, comme tu disais tout à l'heure, ils vont le tenir 2, 3, 4 semaines, mais après, au-delà, ça commence à devenir compliqué, quoi. Et là, je parle en plus, je parle même pas de régime pour sécher, hein, je parle vraiment de régime où t'as pas faim, quoi. Mais justement, je pense même que ça peut être pire.
Ben ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Je te coupe, mais je dirais que c'est pas les mêmes souffrances. Mais là, en fin de préparation aux compétitions ou quand je suis en fin de phase de développement musculaire, c'est presque aussi difficile les deux en termes d'alimentation. Parce que d'un côté, c'est très restrictif, mais d'un côté, quand il faut forcer aussi à manger, c'est relativement compliqué parce que se restreindre de manger, c'est mental, alors que se forcer à manger, c'est quand même mécanique aussi, hein. Je veux dire, quand t'as plus faim que t'en as jusque-là, t'as encore l'estomac plein, tu t'as fait tirer ton repas sur 1 heure, 2 heures, parce que t'es pas arrivé à le finir, et mince, dans 30 minutes, il y en a encore un autre qui arrive, ça donne pas envie.
Ah ouais, j'imagine. En plus, tu passes ta vie aux chiottes.
Bah, c'est un peu l'idée, ouais.
Et ouais, parce qu'il faut ouais, toute cette quantité. Mais bon, après, pour revenir rapidement à ce qu'on disait sur la capacité de tenir sur la durée, les prépas et tout ça. Quel est le, enfin, toi, comment tu trouves du sens à ce que tu fais? C'est quoi pour toi, ce qui donne du sens à tout ce que tu fais, toutes tes préparations et tout ça?
Ben écoute, moi j'ai envie de me prouver à moi-même quelque chose. J'ai envie de me prouver que je peux réussir. Là par exemple, mon objectif du championnat du monde, c'était quelque chose que j'avais dit que je ferais. Ben, pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce que mes parents sont venus avec moi en Ukraine aussi pour ces championnats du monde pour me voir. Et en sortant, mon père, il a ressorti une histoire où je faisais donc pas du tout de sport, hein, comme je te l'ai dit avant. Et un jour à table, parce que mes parents sont des très grands sportifs et ma sœur était athlète de haut niveau en natation synchronisée, et un soir à table, je leur ai dit, bah vous verrez un jour, je serai champion du monde. Et alors là, ils ont rigolé parce que vu que je faisais pas de sport, ils ont dit, mais champion du monde de quoi? Et je leur ai dit, bah j'en sais rien encore. Mais vous verrez, un jour, je serai champion du monde. Et alors, ils ont rigolé, et puis je suis parti un petit peu énervé en leur disant, bah, rigolez bien, mais un jour, vous rigolerez moins. Et puis, bah, 12, 15 ans plus tard, ça y est, je suis champion du monde, et mon père s'en souvenait comme si c'était hier, et il a raconté cette histoire-là.
Ah mais c'est
Donc,
génial.
je suis quelqu'un qui, ça peut être bon ou mauvais, mais je suis quelqu'un qui se fixe des objectifs à lui-même. Et quand je me dis quelque chose, c'est très, 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 très important pour moi de respecter sa parole. Donc, quand je dis que je vais faire quelque chose, eh ben, ça n'a pas pris 5 secondes de le dire. J'ai pris seulement 5 secondes pour le dire, mais il va peut-être falloir mettre 5 ou 15 ans pour y arriver. Mais si ça a été dit, il va falloir le faire maintenant. Et ce qui donne du sens, bah, c'est déjà que, vu que je me pose pas de questions dans le sens où je me dis, tu l'as dit, maintenant tu le fais, j'avance sans trop réfléchir. Et à côté de ça, je pense que c'est très important pour moi de réaliser des choses, tout simplement, que ce soit professionnellement ou sportivement. J'ai besoin d'aller chercher le plus loin possible dans ce que je peux réaliser et d'à la fin me dire, voilà, t'as fait quelque chose, ça c'est noté, c'est signé, c'est payé, comme on dit, et puis ça c'est fait, t'as réussi. Voilà.
D'accord. Et du coup, dans ton, dans là par exemple actuellement là, si tu, si t'es vraiment en fin de sèche là, comment tu le gères au niveau professionnel? Est-ce que vraiment là tu sens que ça a un impact sur ta vie extérieure à ta vie d'athlète ou pas du tout?
Ouais, clairement. Si tu veux, j'ai la chance d'être vraiment très, très, très bien entouré et professionnellement, du coup, j'arrive à me faire remplacer sur pas mal de jours où je travaille habituellement. C'est mon beau-frère Léo, qui est aussi mon associé, qui me remplace pas mal à notre société. Et à
C'est quoi le
côté.
nom de ta société? Enfin, je veux dire, là, c'est tu parles de la boxe de CrossFit
Ouais,
ou...
exactement. Alors, c'est CrossFit Carouge. C'est
D'accord.
donc une boxe de CrossFit à Carouge, en Suisse, à Genève.
Ok. Donc,
Et
ceux
donc.
qui écoutent, s'ils veulent aller faire un tour, ils pourront te rencontrer d'ici peu quand tu auras fini ta prépa, quoi.
Ouais, bah, dès la semaine prochaine, s'ils veulent venir faire une séance d'essai, il n'y a aucun problème, hein, c'est gratuit.
Ok, bah, le
C'est
message
toujours
est passé.
intéressant. Non, comme je disais, j'ai la chance d'être bien entouré, de pouvoir me faire remplacer. Quand tu es dans cet état d'épuisement-là, c'est un épuisement physique, mais c'est un épuisement mental. Donc, tu peux pas te permettre, si tu veux, avec tes clients, de tirer la gueule, de pas avoir autant d'énergie. Tu es là pour les motiver, tu es là pour montrer l'exemple. Ils veulent pas avoir quelqu'un qui est cadavérique et qui arrive plus à se lever de sa chaise, qui pense qu'à manger. Donc, tout ce qui est en direct comme ça, je travaille un peu moins sur les derniers temps et j'assure plutôt tout ce qui se fait au niveau administratif, etc. Et je travaille sur tout ce qui est mes coachings à côté de ça, la nutrition du sport, toutes mes consultations et tout qu'il faut continuer à assumer, quoi. Mais je travaille moins sur les choses qui demandent un contact direct, ouais, ça c'est sûr.
D'accord. Et mais du coup, parce que là, ça reste du CrossFit, la boxe. Toi, tu t'entraînes ailleurs ou tu t'entraînes sur place?
Alors, bah, moi, je m'entraîne un tout petit peu sur place. Mais globalement, je m'entraîne dans une salle vraiment de pure musculation et même une salle plutôt côté bodybuilding sur Genève pour
Ouais.
mes entraînements à moi. Alors, c'est pas qu'une question de matériel, c'est aussi une question d'environnement. Moi, j'aime me dire, là, je suis au travail. À un moment donné, je sors du travail, je me rends à la salle de musculation et je m'entraîne. Alors, c'est pas que, y en a qui disent ouais, parce que les clients, ils viennent, ils te parlent, ils t'empêchent de t'entraîner. Non, moi, c'est pas tellement
Ouais, c'est
ça.
l'environnement après.
Ouais, j'ai besoin de me conditionner, de me dire là, je vais à un endroit pour m'entraîner, qui sert à m'entraîner, je m'entraîne. Voilà.
Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as utilisé un peu le CrossFit pour tes préparations ou pas du tout?
Alors, relativement peu. Alors, il y a quelques exercices qui se retrouvent, mais j'utilise pas du tout le CrossFit, dans mes phases de préparation. Parce que j'aime que tout soit bien géré, millimétré, que je puisse tout quantifier. C'est beaucoup plus facile en salle de musculation. Et accessoirement, j'ai un petit peu peur de la blessure, surtout ce qui est mouvement d'haltérophilie, ou bien, je sais pas, que ce soit tout ce qu'on peut faire en travail aux anneaux, tout
D'accord.
ça. Je suis assez craintif vis-à-vis de la blessure. Je
Ouais,
suis
mais
pas
t'as
quel.
raison de l'être. Tu t'es déjà blessé?
Non, justement, je me suis jamais blessé et j'ai pas envie de me blesser. Mais
Jamais,
non.
même pas une douleur ou sens?
J'ai eu des petites douleurs, des petites sensibilités, des choses, mais qui sont parties en quelques jours. J'ai jamais traîné quelque chose sur la durée. J'ai jamais eu quelque chose qui m'empêchait de m'entraîner.
Ah
Non.
oui, ça c'est bien.
J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est que j'ai été très bien encadré dès mes débuts en musculation et on m'a tout de suite fait un travail un peu de prévention de blessures, bien s'échauffer, etc. Donc, ouais, vis-à-vis de ça, je touche du bois. Non, je me suis jamais blessé, moi.
Moi, je pense que déjà, quand on va à la salle avec une sensation de peur, c'est déjà bon signe, en fait. D'avoir ce côté d'être peureux de la blessure, je pense, enfin moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose si on veut durer. Ça fait pas très viking hein, de dire ça, mais quand je passe sous la barre qu'elle est un peu lourde et tout, ben, j'ai un peu peur, moi personnellement. Parce qu'on sait pas où, enfin, si on va pas se faire mal, quoi. Donc, ce côté peur, moi, me permet de pas faire trop n'importe quoi, de savoir m'arrêter, par exemple, moi, par exemple, je me suis fait une petite déchirure au pec il y a pas longtemps.
Ouais,
Heureusement que j'ai peur. Heureusement que j'ai peur là sur le retour, parce que sinon j'aurais repris le coucher rapidement Et enfin, ça aurait pas très mal guéri, voire peut-être empiré. Donc,
Ouais, clairement, c'est vite de faire n'importe quoi.
c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent, faut pas avoir peur, faut y aller, faut foncer, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que la peur est, en plus, c'est un bon outil qui montre qu'on est intense, quoi. Quand on commence à avoir un peu peur, ça veut dire qu'on rentre dans une zone d'inconfort un petit peu et que on n'est pas juste là pour déplacer des charges sans ressenti, sans rien du tout, quoi.
Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que mon père, il m'a inculqué très tôt. C'est un petit peu sa phrase mythique, mais c'est peu importe ton objectif, peu importe ce que tu veux faire sportivement, mais la base de la base, avant même de commencer à t'entraîner, à parler alimentation, c'est pas se blesser, pas tomber malade. Et c'est quelque chose que je garde comme une phrase de mentor en moi, puisque c'est vrai que si tu te blesses ou si tu es malade, bah déjà, tout le reste, tu peux l'oublier. Donc on commence par là avant tout.
Eh oui, non, mais c'est sûr, hein, de toute façon. Et je pense qu'arriver à ton niveau, tu dois le ressentir bien, c'est que l'entraînement aujourd'hui t'apporte plus que juste tes résultats physiques, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe avec l'entraînement qui, même si aujourd'hui on te disait tu ne progresseras plus, alors je sais pas si ça te le fait à toi, moi ça me le fait personnellement, si on me disait ton physique ne changera plus jamais, ben, j'irai quand même continuer à m'entraîner, en fait. Parce que j'aime ça. Il y a, si tu veux, moi me blesser, ne plus pouvoir m'entraîner, c'est pas le fait que je vais me voir régresser physiquement. Ça, c'est sûr que ça va me faire mal, mais c'est aussi le fait de plus pouvoir m'entraîner qui va me rendre triste.
Ah clairement, c'est ouais, clairement. Bah c'est oui, c'est un peu comme une prière tous les jours. Ouais, alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, hein. Un jour, je sais pas, un accident de voiture, quelque chose, tu peux plus t'entraîner. Ouh là là, ouais. Je pense que psychologiquement, ça doit être assez horrible pour les personnes qui ont en plus un bon niveau, de se blesser, de plus pouvoir y aller, de se voir régresser. C'est ouais,
Ben,
affreux.
tu vois, moi j'ai une petite anecdote sur ça. Avant que je commence à m'entraîner bien sérieusement et tout ça, il y a, ben, je sais plus que ça fait quoi, ça fait plus de 10 ans maintenant. J'étais plus casse-cou dans la vie de tous les jours. Tu vois, je prenais la moto, j'étais un petit peu sans, ben, avec un petit peu inconscient, on va dire. Quand on allait au bord de la rivière, je voulais toujours sauter du pont le plus haut. J'avais vraiment ce côté-là. Aujourd'hui, en fait, quand je vois ce genre de choses, alors il y a la maturité peut-être un petit peu aussi, mais quand je vois ça, je pense tout de suite à, oh là là, si jamais je me fais un claquage ou quoi, je pense en fait à tous ces entraînements qui vont être sacrifiés si je fais le con, quoi.
Ah ben ouais, je vois tout à fait.
Et du coup, je me dis, mais c'est bizarre parce qu'avant, je réfléchissais, mais avant, j'avais rien à perdre, en fait. C'est comme ça que je le vois, c'est qu'avant, la blessure, si tu veux, quand tu t'entraînes pas et tout, tu te dis, bah, au pire, j'aurai 3 semaines d'arrêt maladie et jackpot, quoi, tant mieux.
Ouais.
Mais maintenant, terminé, quoi. Puis surtout, enfin, toi, c'est pareil, mais quand t'es à ton compte, c'est encore amplifié, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je suis totalement dans la même dynamique. D'ailleurs, parfois, je peux peut-être passer pour un peu le pénible, mais quand il y a une activité à faire en famille ou avec les copains, ouais, je suis toujours un peu réticent aux choses où j'imagine que je peux me blesser. Alors, je vais plus, bon, j'ai jamais spécialement aimé ça, mais je suis pas quelqu'un que tu vas emmener au ski ou toutes les choses où je le sens pas, où je me dis là, je pourrais peut-être me blesser ou qu'il peut se passer quelque chose, je le fais pas parce que, ouais, je pense à tout ça, je pourrais plus m'entraîner, etc. Ouais, je comprends tout à fait ta vision là.
Ben, tu sais, après, c'est une mentalité les assurances des sportifs de haut niveau, je sais plus où j'entendais ça. Par exemple, pour les basketteurs, interdiction de faire du ski quand ils sont sous contrat.
Ouais, tout à fait.
Et il y a une anecdote avec ça où Tony Parker, il a acheté une station de ski et il peut même pas y aller, quoi. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, et les assurances, nous, on a ce réflexe, on a parce qu'on est nos propres assureurs, en fait, nous, hein, on n'a pas de, enfin, je sais pas si toi t'en as une, mais moi, j'ai pas d'assurance en cas de blessure. Si eux, les assurances, elles prennent tous les facteurs de risque, quoi. Déjà, le sport qu'on fait est déjà relativement risqué, même si visuellement, ça l'est pas. Les gens, quand ils nous voient en salle pousser des charges, ils ont toujours l'impression que c'est dur, mais que c'est pas risqué comme par exemple, je sais pas, du snowboard ou des choses comme ça, alors que c'est déjà vachement risqué. Et donc on va pas rajouter en plus enfin, quand il y a une carrière en jeu, on va pas rajouter des risques inutiles, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah, Ouais, les gens, ils ont l'impression que c'est un peu muscu canapé, que t'es assis tranquille et que tu pousses ton poids. Mais quand tu commences à être relativement intense, faut pas oublier que la blessure, elle se cache un peu derrière chaque machine, derrière chaque barre, derrière chaque haltère. Après, tout dépend comment toi tu vas les utiliser, mais c'est facile de pas se blesser et c'est facile de se blesser à la fois. Hein.
Ouais, parce que enfin les gens ils voient toujours le côté la fracture, les choses comme ça sur les sports un peu extrêmes, mais je vous garantis qu'un arrachement complet du pec, enfin je le souhaite à personne, hein. Parce que c'est pas un plâtre ou quelque chose comme ça, hein. Là c'est on rentre dans le on rentre sous la peau, on vient rattacher un tendon sur le l'humérus, enfin c'est quelque chose, c'est de la belle blessure quand même, hein.
Ouais.
Et enfin bon voilà. Et après au niveau conditionnement mental et tout, comment tu te prépares? Parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes, ça, toute la partie mentale. Parce que les journées, au lieu de durer 24 heures, quand tu es à la diète, elles durent une semaine. Chaque minute, ça passe vraiment à rallonge, quoi. Comment tu fais pour... Est-ce que tu cherches à changer les idées? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu fais de l'hypnose? Est-ce que tu t'es adepte déjà de ce genre de pratique ou t'as d'autres techniques? Tu lis, je sais pas, tu fais des... Comment t'occupes en fait ton cerveau?
Alors, ouais, bah, c'est des choses que j'ai déjà pratiquées, que ce soit l'hypnose, la méditation. Je travaille beaucoup avec des exercices de respiration, moi, pour me calmer l'esprit et me changer les idées.
Ouais.
À côté de ça, j'essaye de faire des choses qui absorbent mon attention. Alors, ça peut paraître tout bête, mais par exemple, durant une préparation, je me suis un petit peu remis à un jeu vidéo
Ah bah ça c'est le top, hein.
par lequel j'étais totalement absorbé quand j'étais plus jeune. Et en fait, je l'ai racheté, je me suis remis dedans, et toute mon attention s'était focalisée là-dessus. Et du coup, la préparation s'est bien mieux passée. Là, tu vois, en fin de préparation, c'est tout bête, je l'ai juste devant moi, mais je me suis acheté un château Lego. Et en fait, quand j'arrive plus à dormir la nuit parce que je me réveille, j'ai trop faim, et bah, je vais dans mon salon et je monte mon château Lego. Et ça me fait faire quelque chose, tu vois. Au lieu de penser à manger, bah, je suis le petit fascicule et puis je monte mes trucs. Parce que tout ce qui est méditation, etc., au bout d'un moment, quand ça devient trop fort, trop oppressant, que ce soit la pression de la compétition, le stress qui est, de la compète qui arrive, ou bien toutes les envies alimentaires, c'est difficile de se focaliser sur autre chose, je trouve, si j'ai pas quelque chose à faire avec mes mains aussi, tu vois, physiquement.
Ah ouais. Bah après
Donc,
t'es dans le moment présent quand tu montes ton château ou que tu fais.
exactement.
Mais à moi le conseil que je peux te donner par rapport à la méditation, c'est la méditation. En fait, il faut la faire quand tout va bien. Il faut que tu t'entraînes au maximum. Par exemple, quand t'es en période de préparation pour où t'as pas faim ou on va dire où t'es dans ou alors pendant les phases de transition. Parce que c'est là en fait où t'entraînes ton cerveau au maximum et ça te servira les moments où tu vas mal. Entre guillemets, quand je dis tu vas mal, c'est que tu sens que la volonté, enfin c'est plus hard à tenir quoi.
Ouais.
Parce que s'en servir pendant des périodes aiguës de stress ou de fatigue ou de démotivation ou quoi, ça marchera pas en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler avant. La méditation, c'est un petit peu comme la prévention des blessures. Tu vois, quand on dit du collagène, faut en prendre avant de se blesser. Il y a plein de gens, ils s'en foutent, ils vont pas l'acheter parce qu'ils sont pas blessés. Et puis le jour où ils sont blessés, ils pensent que ça va les sauver. La
Ouais, tout à
méditation, c'est
fait.
un peu la même chose. C'est prendre l'habitude, alors pas d'en faire forcément tous les jours, mais d'en faire le plus régulièrement possible pour développer ses capacités à réussir à se détacher un petit peu de tout, de se concentrer sur le moment présent, sans avoir justement besoin d'une béquille, comme un jeu, etc. Parce que tes techniques, elles sont superbes, mais il y a peut-être des moments où t'auras pas accès à ça, en fait. Et tu pourras te reporter qu'à toi, c'est-à-dire à ta façon de penser pour tenir. Et c'est là, je pense, où la méditation, si elle a été suffisamment travaillée par le passé, peut t'aider justement, en fait, à lâcher prise, à accepter le truc, etc., quoi. Mais en tout cas, la technique du château Lego, je pense que ça va. Alors pour ceux qui comprennent pas trop les préparations, l'intensité, ils vont se dire, mais non, il y a peut-être pas besoin d'en arriver jusque-là. Mais je pense que c'est une super technique. Chacun trouvera son truc, mais tout ce qui est construction, même du bricolage classique, hein.
Ouais.
Toi, tu parles de construire un château Lego, mais moi, la dernière fois, là, quand j'ai attaqué mon régime, j'ai fabriqué une table basse.
Ouais, bah voilà, mais c'est
Tu vois, je suis allé
exactement
acheter
ce que
mon
je
bois, parce que moi, j'adore ça. Moi, c'est pour moi, le travail du bois, c'est vraiment quelque chose qui, pareil, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Quand je travaille le bois, je me sens vraiment complètement absorbé. J'ai rien dans les oreilles. Je suis sur ma terrasse. Tu vois, il y a le bruit de la nature et tout à côté. Et en avant, quoi, la scie, les clous, les machins. Et ça peut accélérer le temps d'une journée à vitesse grand V. Et tu parlais de jeux vidéo. C'est marrant parce que, alors je sais pas si tu connais, mais j'avais vu les conférences et je crois même que j'avais lu son bouquin d'Idriss Aberkham. Je sais pas si tu connais.
Non, du tout.
Ok, il avait écrit un livre qui s'appelle, je sais plus, un truc sur le cerveau. Attends, il faut que je le retrouve parce que les gens vont me dire, il est pas sérieux. Idriss Aberkham, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est libérer votre cerveau. Et en fait, dans sa conférence, pas besoin d'acheter le bouquin, mais dans la conférence, il parle justement de l'attention et du temps. Et en fait, plus t'as un degré d'attention extrême et plus le temps passe vite, plus t'es focus en fait. Dans d'autres livres, ils peuvent appeler ça le flow. Dans les jeux vidéo, c'est là où tu le retrouves le plus, et particulièrement dans World of Warcraft, les choses comme ça. Alors moi, j'ai jamais joué, mais apparemment, c'est les jeux où t'es hyper, 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 hyper dedans, quoi.
Ouais, bah tout à fait. Bah, c'est un jeu similaire à World of Warcraft. C'est vrai que j'avais repris
Ben voilà, tu
exactement
vois.
les jeux en ligne comme ça. C'est ce qui avait le mieux marché. Mais pour revenir juste rapidement sur ce que tu disais sur la préparation mentale, ouais, ma sœur, elle est préparatrice mentale aussi de métier. Au-delà
D'accord.
du fait que maintenant elle est entraîneur pour des équipes de natation synchro, vu qu'elle en faisait à haut niveau. Et elle m'a beaucoup, beaucoup aidé à travailler là-dessus. Et notamment en mettant en place, alors je sais pas si les gens ils vont connaître, mais des techniques comme le switch, des choses comme ça, qui servent vraiment à te faire passer d'un état de stress à un état de calme, ou à l'inverse, complètement
Avec
à
la
un état.
respiration.
Ouais, alors que ce soit avec la respiration ou complètement là en mettant en fait, elle essaye d'importer dans notre tête soit une image mentale ou bien un geste physique que tu peux réaliser. Et qui te fait passer d'un état à un autre. Et c'est quelque chose qui marche
Une
très,
encre,
très,
quoi.
très bien sur moi. Ouais, exactement, c'est ça.
Ouais.
Et typiquement, moi, j'ai mon geste et il marche vraiment très, très bien quand je sens que le stress monte, vraiment la pression de la compétition, que je peux me mettre à stresser, je fais mon geste et hop, tout disparaît. Alors, c'est assez incroyable à dire comme ça, mais quand on le vit, c'est assez fou. C'est,
Non,
ouais.
moi je vois bien ce que tu veux dire. Ben après, il y en a qui ont eu un petit bracelet élastique et qui le font claquer aussi sur le poignet.
Ouais.
En fait, il faut avoir une sensation physique qui va te rappeler ta façon de penser. En fait, il faut qu'il y ait un lien entre les deux, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient un petit peu comprendre, les émotions, les gestes, plus en fait on va mobiliser de sens. Donc, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, l'écoute, la vue, à un événement, plus on va l'ancrer, on va s'en rappeler. Et le fait, par exemple, comme il disait, d'essayer de prendre, par exemple, une image hyper positive, hyper qui va nous détendre, etc., et de l'associer à une sensation physique, ça aura plus d'impact dans notre mémoire et dans notre capacité à basculer là-dessus, en fait. Enfin, je sais pas si je me suis bien expliqué, c'est plus ou moins ça que
Ouais, c'est exactement ça, ouais, tout à
Et
fait.
pour aller un petit peu plus loin, il y a des personnes qui vont réagir beaucoup mieux au toucher, d'autres à ce qui est auditif, donc à ce qu'ils vont entendre, d'autres aux odeurs, et d'autres à la vue. Et ça, c'est vraiment, et d'autres à la sensation corporelle aussi. Chacun a besoin de trouver son sens qui domine en fait par rapport à ça, et après de pouvoir travailler dessus. Il y a des gens chez qui l'écoute de la musique va leur rappeler plein de souvenirs, alors que d'autres pas du tout. Et d'autres, ça va être quand ils vont voir quelque chose. En général, quand on arrive à cerner quel est nous notre process personnel, ça peut nous servir pour justement créer une encre. Alors pour ceux qui connaissent pas, ils vont pas savoir trop de quoi on parle là, mais c'est tout simplement des techniques d'optimisation. Et je
Oui.
recommande aussi un livre qui est pas mal sur la technique d'optimisation du potentiel de, je crois que c'est Judith Hérault, quelque chose comme ça. Là, c'est les pratiques militaires, en fait, où ils prennent tout ça, tous ces trucs-là, sophrologie et tout, mais pour l'armée. Eux, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec des méthodes qui fonctionnent pas. Ils filtrent, ils trient ce qui fonctionne. Et moi, enfin moi, je l'avais lu, j'avais appliqué, j'avais fait des recherches un peu plus poussées, j'en avais parlé sur le site aussi. C'est vraiment quelque chose de pas mal, quoi. Voilà. Donc après, ben, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble.
Yes.
Si les gens alors veulent te contacter, soit pour un suivi, soit pour te rencontrer peut-être à la salle, faire une séance d'essai et tout, tu les enverrais vers quoi? Une page Facebook, un compte Instagram?
Ah bah, ils peuvent soit directement me contacter par mail à kevin.buet@outlook.fr, sinon
Ouais.
directement sur Facebook, mon compte c'est Kevin Buet. Ou sur, si c'est pour du CrossFit, vraiment spécifiquement venir essayer la salle, sur la page directement de la salle qui est CrossFit Carouge.
Ok. Ben, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous mettre les liens à tous là dans la description. J'espère que je vais pas oublier. Comme ça, au moins, vous aurez tout pour aller retrouver Kevin. Et puis, je pense que si vous êtes dans le coin, ça peut valoir le coup d'aller le rencontrer avec une petite séance d'essai, quoi. Parce qu'en plus, ça vous permettra d'être dans la bonne
Ouais, tout à fait.
config.
Alors que ce soit pour du CrossFit ou totalement à côté de ça, pour l'activité de bodybuilding, qui sont deux choses bien distinctes, faut pas hésiter. Est-ce que je pourrais juste rajouter un petit mot pour parler de quelque chose d'important dont je voulais parler au
Vas-y,
niveau de...
vas-y.
En fait, je pense que au niveau des préparations de compétition pour le bodybuilding, il faut bien différencier deux choses. C'est parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent oui, je vais participer à une compétition, j'aimerais bien faire de la compétition, je me prépare. Alors, il y a deux choses à prendre en compte qui sont vraiment importantes, c'est que se préparer pour une compétition et arriver prêt à une compétition, c'est deux choses qui n'ont vraiment, mais vraiment rien à voir. Se préparer pour une compétition, on peut le faire un petit peu comme on veut. Arriver prêt à une compétition, c'est vraiment compliqué. Et d'autant plus quand on commence à vouloir monter à niveau international. Ça demande plus du tout les mêmes efforts ni les mêmes sacrifices. Et pour en parler rapidement, pour aller décrocher ma médaille de champion du monde là cette année, cette médaille, elle a coûté beaucoup beaucoup plus cher que les efforts financiers que ça demande, les efforts à l'entraînement ou les efforts sur la diète. Faut faire bien attention, on met en péril son travail, mais surtout sa famille. Faut bien faire attention à ça. Je conseille à personne de se lancer dans une vraie préparation de compétition si déjà tout ne va pas bien autour. Il faut que tout aille bien dans le travail, dans la famille, au niveau financier, que tout roule dans la vie. Et là, on peut commencer à se poser des questions. Parce que si vraiment déjà il y a des choses qui sont un peu bancales, on court droit à la catastrophe, hein.
Ouais, tu parles de la vie de couple, etc., quoi.
Ouais, vraiment, vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui est pénible. Quand je prépare les compétitions dans le sens où je suis pas quelqu'un qui devient aigri ou agressif, au contraire, je m'éteins lentement et je m'efface. Mais pour
Mais
ma compagne
c'est pas
qui vit
forcément
4 mois
bon non
avec un
plus.
fantôme, voilà,
Ouais.
c'est pas mieux non plus.
Mais
Demander à
après,
quelqu'un de te
ouais.
soutenir, mais toi de lui fournir plus aucun soutien, c'est quand même quelque chose, hein.
Il faut être ouais. Bah après ouais, c'est sûr que c'est pas se préparer à une compétition, c'est un engagement moi je l'ai jamais vécu hein. Les seules préparations que j'ai fait c'est pour des shootings photos donc rien à voir. Mais ça demande quand même bah voilà une préparation comme je pense comme n'importe quel sportif de haut niveau qui devrait s'isoler. Qui pourrait plus avoir accès à la vie de Monsieur Tout le Monde, parce que quand tu dis 4 mois de préparation, ben c'est 4 mois où tu feras pas de voyage, où tu prendras peut-être même pas des petits week-ends, peut-être au début des petits week-ends détente, mais tu dois suivre une diète, donc les restos c'est compliqué, et ben on sait que dans une vie de couple, tous ces petits moments et tout ça, au bout de quelques temps, ça vient à manquer et ça peut créer une forme de tension.
Ouais, clairement.
Ouais, je pense que t'as bien fait de le souligner.
Et puis, il faut bien faire attention à tout ça parce que même au début, quand je préparais les compétitions qui étaient de plus bas niveau, j'avais vraiment l'impression que j'en chiais, etc., que c'était difficile à préparer. Mais quand je vois maintenant les efforts que je dois fournir pour pouvoir amener un physique compétitif au niveau international, ça n'a encore rien à voir. Donc, vraiment bien retenir ça, entre se préparer et arriver prêt. C'est deux choses diamétralement opposées et qui peuvent mettre en péril beaucoup de choses dans sa vie privée. Il faut vraiment faire très attention à ça. ça peut vite devenir très très compliqué, hein.
Et rapidement, tant qu'on y est, c'est quoi tes futurs projets?
Alors ben là, je verrai comment ça se déroule pour le titre de Monsieur Univers ce week-end. Mais après ça, ça va être repos dans le sens où il n'y aura pas de compétition pendant une période, parce qu'il faut vraiment que je me retrouve avec moi-même, mon vrai moi, si tu veux, au niveau énergie, sensation,
Ouais.
etc. Et aussi et surtout qu'on se retrouve avec ma petite amie, avec ma famille, etc. Je vais repartir dans du développement musculaire pour repréparer peut-être des compétitions plus tard. Enfin, si tu veux, l'objectif de devenir champion du monde, c'était l'objectif de ma vie sportive. Et maintenant que je l'ai atteint, pour tout te dire, je me sens un petit peu perdu.
Ouais, je
Donc
comprends.
là, ça va, j'ai l'autre compétition donc ce week-end qui s'enchaîne 3 semaines après le championnat du monde. Donc ça m'a maintenu dans un objectif, dans une rigueur alimentaire, etc. Mais en fait, j'ai peur, si tu veux, du après, là, dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer quand tout sera terminé? Cet objectif, c'était l'objectif donc de ma vie sportive. Je voulais l'atteindre, mais je savais pas si ça serait maintenant à 26 ans, à 36 ans, à 46 ans. Et finalement, je l'ai atteint aussi vite et aussi jeune. Donc, je sais pas. Et on me met pas mal de pression dans le sens où on me dit que j'ai un énorme potentiel, que du coup, je peux monter très haut. Mais vu ce que ça me demande en termes de sacrifice, etc. Enfin, c'est plein de questions que je me pose et je suis un petit peu perdu, tu vois. J'en parle comme ces femmes, tu sais, qui attendent pendant 9 mois d'accoucher et qui font un peu le baby blues après. Donc
Ouais.
voilà. Donc je sais pas trop comment ça va tourner, mais ce qui est sûr, c'est que je vais rester toujours à fond dans mes objectifs sportifs, etc. Mais il va falloir les redéfinir autrement, quoi. Maintenant que celui-là a été atteint et que c'était le plus gros pour moi. En fait, j'ai jamais pensé au après, tellement cet objectif, il me semblait loin et inatteignable.
Bah c'est peut-être pour ça aussi que tu as réussi, c'est parce que tu t'es pas attardé sur le sur tu t'es pas embrouillé l'esprit avec le après, le pourquoi, les questions existentielles, etc. T'avais ton objectif, t'y allais.
Ouais.
Et bah, après peut-être que tu trouveras peut-être aussi dans quand tu vas récupérer un train de vie un peu plus, on va dire, classique, c'est peut-être là où et tu vas relâcher la pression un petit peu, que les idées vont arriver, quoi.
Oui, tout va se remettre en
Et
place.
ça sera peut-être pas, ça sera peut-être plus la compétition, ça sera peut-être autre chose qui va te redynamiser. Donc il y a, enfin ça, moi je me fais pas trop de soucis vu le degré de passion. Quand t'es capable d'aller jusqu'au championnat du monde et remporter le titre, je vois pas comment du jour au lendemain tu pourrais abandonner dans le sens d'avoir des buts, des objectifs, etc. quoi. Si je pense qu'il faut laisser faire la nature un petit peu, quoi.
Oui, puis toujours aller dans du positif et du constructif pour soi, même si ça demande beaucoup de sacrifices, mais que ce soit en termes sportifs ou dans le travail, etc. Je pense que quand on veut se développer personnellement ou même physiquement, faut toujours que y ait une balance positive. Parce que là, j'ai parlé de la compétition quand même relativement négativement en termes de sacrifices, etc. Mais
Ah, t'as donné,
je pourrais
c'est la
parler pendant
réalité
des heures
aussi.
de ce que ça m'a apporté aussi personnellement. Et les moments incroyables que j'ai pu vivre. Tu
Mais
vois,
ça,
quand j'ai remporté le titre de champion du monde, ouais, c'était assez incroyable, quoi. Que ce soit personnellement ou quand c'était mon nom, j'ai vu ma copine qui est tombée par terre. Enfin, tu vois, tu descends et puis j'ai pris mes parents dans mes bras. Enfin, tu vois, je suis encore assez ému d'y repenser là, mais enfin, tu vois, c'est des moments vraiment incroyables. C'est les moments les plus forts que j'ai pu vivre, tu vois. Après autant de souffrances, en une fraction de seconde, c'est toi qui gagnes et tout est balayé. C'est un gros chamboulement, hein, au niveau du cerveau.
je pense que c'est ça qui t'encourage à recommencer après. Hein.
Ouais, c'est un petit peu la drogue, c'est un peu une drogue de se faire aussi mal et d'un coup de gagner, d'être récompensé pour tous ces efforts. C'est assez incroyable finalement.
Eh ben super. Ben en tout cas, ben ça fait un super message positif
Oui, pour terminer
pour
là-dessus.
terminer. Ben en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. On sera rentré un petit peu dans le corps le cœur pardon de la préparation body. Ben encore une fois, je mets tous les liens pour pouvoir te contacter dans la description.
Super.
Et puis si les personnes ont, enfin je pense qu'il faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions par rapport à la préparation ou autre, contactez Kevin. Je pense que en plus ça va lui occuper un peu l'esprit là
Oui,
ces
tout à
derniers
fait.
jours. Donc n'hésitez pas. Donc en tout cas merci à toi et puis on se retrouvera peut-être pour un autre épisode si les gens ont des questions.
Eh ben écoute, super Théo, et puis continue ton travail, il m'aide beaucoup. Je l'ai pas souligné là, mais pendant toutes ces nuits de montage Lego ou de quand je dormais plus, j'écoutais religieusement les formations et les podcasts, et vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à tenir. Alors toi, c'est la première fois que tu entendais ma voix, mais la tienne, je la connais bien.
Ben d'accord, ben merci pour le coup de pub. En tout cas, ça fait plaisir. Content que ça ait pu t'aider. Et puis, merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!